Lettre 122. Usbek au même. L'effet ordinaire des colonies est d'affaiblir les pays d'où on les tire, sans peupler ceux où on les envoie. Il faut que les hommes restent où ils sont. Il y a des maladies qui viennent de ce qu'on change un bon air contre un mauvais, d'autres qui viennent précisément de ce qu'on en change. L'air se charge, comme les plantes, des particules de la terre de chaque pays. Il agit tellement sur nous que notre tempérament en est fixé. Lorsque nous sommes transportés dans un autre pays, nous devenons malades. Les liquides étant accoutumés à une certaine consistance, les solides à une certaine disposition, tous les deux à un certain degré de mouvement, n'en peuvent plus souffrir d'autres, et ils résistent à un nouveau pli. Quand un pays est désert, c'est un préjugé de quelque vice particulier de la nature du terrain ou du climat. Ainsi, quand on ôte les hommes d'un ciel heureux pour les envoyer dans un tel pays, on fait précisément le contraire de ce qu'on se propose. Les Romains savaient cela par expérience. Ils reléguaient tous les criminels en Sardaigne, et ils y faisaient passer des Juifs. Il fallut se consoler de leur perte. Chose que le mépris qu'ils avaient pour ces misérables rendait très facile. Le grand Shahaba, voulant ôter aux Turcs le moyen d'entretenir de grosses armées sur les frontières, transporta presque tous les Arméniens hors de leur pays et en envoya plus de 25 000 familles dans la province de Gilan, qui périrent presque toutes en très peu de temps. Tous les transports de peuples faits à Constantinople n'ont jamais réussi. Ce nombre prodigieux de nègres dont nous avons parlé n'a point rempli l'Amérique. Depuis la destruction des Juifs sous Hadrien, la Palestine est sans habitants. Il faut donc avouer que les grandes destructions sont presque irréparables, parce qu'un peuple qui manque à un certain point reste dans le même état. Et si par hasard il se rétablit, il faut des siècles pour cela. Que si, dans un état de défaillance, la moindre des circonstances dont je t'ai parlé vient à concourir, non seulement il ne se répare pas, mais il dépérit tous les jours et tend à son anéantissement. L'expulsion des Maures d'Espagne se fait encore sentir comme le premier jour. Bien loin que ce vide se remplisse, il devient tous les jours plus grand. Depuis la dévastation de l'Amérique, les Espagnols qui ont pris la place de ses anciens habitants n'ont pu la repeupler. Au contraire, par une fatalité que je ferais mieux de nommer une justice divine, les destructeurs se détruisent eux-mêmes et se consument tous les jours. Les princes ne doivent donc point songer à repeupler de grands pays par des colonies. Je ne dis pas qu'elles ne réussissent quelquefois. Il y a des climats si heureux que l'espèce s'y multiplie toujours. Témoin, ces îles qui ont été peuplées par des malades que quelques vaisseaux y avaient abandonnés et qui y recouvraient aussitôt la santé. Mais quand ces colonies réussiraient, au lieu d'augmenter la puissance, elles ne feraient que la partager, à moins qu'elles n'eussent très peu d'étendue, comme sont celles que l'on envoie pour occuper quelques places pour le commerce. Les Carthaginois avaient, comme les Espagnols, découvert l'Amérique, ou au moins de grandes îles dans lesquelles ils faisaient un commerce prodigieux. Mais, quand ils virent le nombre de leurs habitants diminuer, cette sage république défendit à ses sujets ce commerce et cette navigation. J'ose le dire. Au lieu de faire passer les Espagnols dans les Indes, il faudrait faire repasser les Indiens et les Métis en Espagne. Il faudrait rendre à cette monarchie tous ces peuples dispersés. Et si la moitié seulement de ces grandes colonies se conservait, l'Espagne deviendrait la puissance de l'Europe la plus redoutable. On peut comparer les empires à un arbre dont les branches trop étendues ôtent tout le suc du tronc et ne servent qu'à faire de l'ombrage. Rien n'est plus propre à corriger les princes de la fureur des conquêtes lointaines que l'exemple des Portugais et des Espagnols. ces deux nations, ayant conquis avec une rapidité inconcevable des royaumes immenses, plus étonnés de leur victoire que les peuples vaincus de leur défaite, songèrent aux moyens de les conserver et prirent chacun pour cela une voie différente. Les Espagnols, désespérant de retenir les nations vaincues dans la fidélité, prirent le parti de les exterminer et d'y envoyer d'Espagne des peuples fidèles. Jamais dessein horrible ne fut plus ponctuellement exécuté. On vit un peuple aussi nombreux que tous ceux de l'Europe ensemble disparaître de la terre à l'arrivée de ces barbares, qui semblèrent, en découvrant les Indes, n'avoir pensé qu'à découvrir aux hommes quelle était la dernière période de la cruauté. Par cette barbarie, ils conservèrent ce pays sous leur domination. Juge par là combien les conquêtes sont funestes, puisque les effets en sont tels. Car enfin, ce remède affreux était unique. Comment aurait-il pu retenir tant de millions d'hommes dans l'obéissance? Comment soutenir une guerre civile de si loin? Que seraient-ils devenus s'ils avaient donné le temps à ces peuples de revenir de l'admiration où ils étaient de l'arrivée de ces nouveaux dieux et de la crainte de leur foudre? Quant aux Portugais, ils prirent une voie tout opposée. Ils n'employèrent pas les cruautés. Aussi furent-ils bientôt chassés de tous les pays qu'ils avaient découverts. Les Hollandais favorisèrent la rébellion de ces peuples et en profitèrent. Quel prince envierait le sort de ses conquérants? Qui voudrait de ses conquêtes à ces conditions? Les uns en furent aussitôt chassés, les autres en firent des déserts et rendirent leur propre pays un désert encore. C'est le destin des héros de se ruiner à conquérir des pays qu'ils perdent soudain, ou à soumettre des nations qu'ils sont obligés eux-mêmes de détruire. Comme cet insensé qui se consumait à acheter des statues qu'il jetait dans la mer et des glaces qu'il brisait aussitôt. De Paris, le 18 de la lune de Ramazan, 1718. Lettre 123. Usbek au même. La douceur du gouvernement contribue merveilleusement à la propagation de l'espèce. Toutes les républiques en sont une preuve constante. Et plus que toutes, la Suisse et la Hollande, qui sont les deux plus mauvais pays de l'Europe, si l'on considère la nature du terrain, et qui cependant sont les plus peuplés. Rien n'attire plus les étrangers que la liberté et l'opulence qui la suit toujours. L'une se fait rechercher par elle-même, et nous sommes conduits par nos besoins dans les pays où l'on trouve l'autre. L'espèce se multiplie dans un pays où l'abondance fournit aux enfants, sans rien diminuer de la subsistance des pères. L'égalité même des citoyens, qui produit ordinairement de l'égalité dans les fortunes, porte l'abondance et la vie dans toutes les parties du corps politique, et la répand partout. Il n'en est pas de même des pays soumis au pouvoir arbitraire. Le prince, les courtisans et quelques particuliers possèdent toutes les richesses, pendant que tous les autres gémissent dans une pauvreté extrême. Si un homme est mal à son aise, et qu'il sente qu'il fera des enfants plus pauvres que lui, il ne se mariera pas. Ou, s'il se marie, il craindra d'avoir un trop grand nombre d'enfants qui pourraient achever de déranger sa fortune et qui descendraient de la condition de leur père. J'avoue que le rustique ou paysan, étant une fois marié, peuplera indifféremment, soit qu'il soit riche, soit qu'il soit pauvre. Cette considération ne le touche pas. Il a toujours un héritage sûr à laisser à ses enfants, qui est son noyau, et rien ne l'empêche de suivre aveuglément l'instinct de la nature. Mais à quoi sert dans un état ce nombre d'enfants qui languissent dans la misère? Ils périssent presque tous à mesure qu'ils naissent. Ils ne prospèrent jamais. Faibles et débiles, ils meurent en détail de mille manières, tandis qu'ils sont emportés en gros par les fréquentes maladies populaires que la misère et la mauvaise nourriture produisent toujours. Ceux qui en échappent atteignent l'âge viril sans en avoir la force et languissent tout le reste de leur vie. Les hommes sont comme les plantes, qui ne croissent jamais heureusement si elles ne sont bien cultivées. Chez les peuples misérables, l'espèce perd et même quelquefois dégénère. La France peut fournir un grand exemple de tout ceci. Dans les guerres passées, la crainte où étaient tous les enfants de famille d'être enrôlés dans la milice les obligeait de se marier, et cela dans un âge trop tendre et dans le sein de la pauvreté. De tant de mariages, il naissait bien des enfants que l'on cherche encore en France, et que la misère, la famine et les maladies ont fait disparaître. Que si, dans un ciel aussi heureux, dans un royaume aussi policé que la France, on fait de pareilles remarques, que sera-ce dans les autres États ? De Paris, le 23 de la lune de Ramazan, 1718. Lettre 124. Usbek au Molak Mehemet Ali, gardien des trois tombeaux à Qom. Que nous servent les jeûnes des imômes et les cilices des Molaks ? La main de Dieu s'est deux fois appesantie sur les enfants de la loi. Le soleil s'obscurcit et semble n'éclairer plus que leur défaite. Leurs armées s'assemblent et elles sont dissipées comme la poussière. L'empire des Osmalins est ébranlé par les deux plus grands échecs qu'il ait jamais reçus. Un moufti chrétien ne le soutient qu'avec peine. Le grand vizir d'Allemagne est le fléau de Dieu envoyé pour châtier les sectateurs d'Omar. Ils portent partout la colère du ciel irritée contre leur rébellion et leur perfidie. Esprit sacré des imams, tu pleures nuit et jour sur les enfants du prophète, que le détestable Omar a dévoyés. Les entrailles s'émeuvent à la vue de leur malheur. Tu désires leur conversion et non pas leur perte. Tu voudrais les voir réunis sous l'étendard d'Ali par les larmes des saints, et non pas dispersés dans les montagnes et dans les déserts par la terreur des infidèles. De Paris, le 1er de la lune de Chalval, 1718. Lettre 125. Usbek à Redi, à Venise. Quel peut être le motif de ces libéralités immenses que les princes versent sur leurs courtisans ? Veulent-ils se les attacher ? Ils leur sont déjà acquis autant qu'ils peuvent l'être. Et d'ailleurs, s'ils acquièrent quelques-uns de leurs sujets en les achetant, il faut bien, par la même raison, qu'ils en perdent une infinité d'autres en les appauvrissant. Quand je pense à la situation des princes, toujours entourés d'hommes avides et insatiables, je ne puis que les plaindre, et je les plains encore davantage lorsqu'ils n'ont pas la force de résister à des demandes toujours onéreuses à ceux qui ne demandent rien. Je n'entends jamais parler de leur libéralité, des grâces et des pensions qu'ils accordent, que je ne me livre à mille réflexions. Une foule d'idées se présente à mon esprit. Il me semble que j'entends publier cette ordonnance. Le courage infatigable de quelques-uns de nos sujets à nous demander des pensions, ayant exercé sans relâche notre magnificence royale, nous avons enfin cédé à la multitude des requêtes qu'ils nous ont présentées, lesquelles ont fait jusqu'ici la plus grande sollicitude du trône. Ils nous ont représenté qu'ils n'ont point manqué, depuis notre avènement à la couronne, de se trouver à notre levée, que nous les avons toujours vus sur notre passage, immobiles comme des bornes, et qu'ils se sont extrêmement élevés pour regarder, sur les épaules les plus hautes, notre sérénité. Nous avons même reçu plusieurs requêtes de la part de quelques personnes du beau sexe, qui nous ont supplié de faire attention qu'il est notoire qu'elles sont d'un entretien très difficile. Quelques-unes même, très surannées, nous ont prié, branlant la tête, de faire attention qu'elles ont fait l'ornement de la cour des rois nos prédécesseurs, et que, si les généraux de leurs armées ont rendu l'État redoutable par leurs faits militaires, elles n'ont point rendu la cour moins célèbre par leurs intrigues. Ainsi, désirant traiter les suppliants avec bonté et leur accorder toutes leurs prières, nous avons ordonné ce qui suit. Que tout laboureur ayant 5 enfants retranchera journellement la 5e partie du pain qu'il leur donne. Enjoignons aux pères de famille de faire la diminution sur chacun d'eux aussi juste que pourra se faire. Défendons expressément à tous ceux qui s'appliquent à la culture de leurs héritages ou qui les ont donnés à titre de ferme d'y faire aucune réparation de quelque espèce qu'elle soit. Ordonnons que toute personne qui s'exerce à des travaux vils et mécaniques, lesquels n'ont jamais été au lever de notre majesté, n'achète désormais d'habits à eux, à leurs femmes et à leurs enfants que de 4 ans en 4 ans. Leur interdisons en outre très étroitement ces petites réjouissances qu'ils avaient coutume de faire dans leur famille, les principales fêtes de l'année. Et, d'autant que nous demeurons avertis que la plupart des bourgeois de nos bonnes villes sont entièrement occupés à pourvoir à l'établissement de leurs filles, lesquelles ne se sont rendues recommandables dans notre état que par une triste et ennuyeuse modestie, nous ordonnons qu'ils attendront à les marier jusqu'à ce qu'ayant atteint l'âge limité par les ordonnances, elles viennent à les y contraindre. Défendons à nos magistrats de pourvoir à l'éducation de leurs enfants. De Paris, le 1er de la lune de Chalval, 1718. Lettre 126. Rica A. On est bien embarrassé dans toutes les régions quand il s'agit de donner une idée des plaisirs qui sont destinés à ceux qui ont bien vécu. On épouvante facilement les méchants par une longue suite de peines dont on les menace. Mais pour les gens vertueux, on ne sait que leur promettre. Il semble que la nature des plaisirs soit d'être d'une courte durée. L'imagination a peine à en représenter d'autres. J'ai vu des descriptions du paradis capable d'y faire renoncer tous les gens de bon sens. Les uns font jouer sans cesse de la flûte ces ombres heureuses, d'autres les condamnent au supplice de se promener éternellement. D'autres, enfin, qui les font rêver là-haut aux maîtresses d'ici-bas, n'ont pas cru que 100 millions d'années fussent un terme assez long pour leur ôter le goût de ces inquiétudes amoureuses. Je me souviens à ce propos d'une histoire que j'ai ouï raconter à un homme qui avait été dans le pays du Mogol. Elle fait voir que les prêtres indiens ne sont pas moins stériles que les autres dans les idées qu'ils ont des plaisirs du paradis. Une femme qui venait de perdre son mari vint en cérémonie chez le gouverneur de la ville lui demander la permission de se brûler. Mais comme dans les pays soumis aux mahométans, on abolit tant qu'on peut cette cruelle coutume, il la refusa absolument. Lorsqu'elle vit ses prières impuissantes, elle se jeta dans un furieux emportement. « Voyez, disait-elle, comme on est gêné. Il ne sera seulement pas permis à une pauvre femme de se brûler quand elle en a envie. A-t-on jamais vu rien de pareil? Ma mère, ma tante, mes sœurs se sont brûlées. Et quand je vais demander permission à ce maudit gouverneur, il se fâche et se met à crier comme un enragé. » Il se trouva là, par hasard, un jeune bonze. « Homme infidèle, dit le gouverneur, est-ce toi qui as mis cette fureur dans l'esprit de cette femme ? » ?»« Non, dit-il, je ne lui ai jamais parlé. Mais si elle m'en croit, elle consommera son sacrifice. Elle fera une action agréable au dieu Brahma. Aussi en sera-t-elle bien récompensée, car elle retrouvera dans l'autre monde son mari, et elle recommencera avec lui un second mariage. « Que dites-vous ? » dit la femme surprise. « Je retrouverai mon mari ? Ah ! Je ne me brûle pas. Il était jaloux, chagrin, et d'ailleurs si vieux que si le dieu Brahma n'a point fait sur lui quelque réforme, sûrement il n'a pas besoin de moi. Me brûler pour lui ? Pas seulement le bout du doigt pour le retirer du fond des enfers. » Deux vieux bonzes qui me séduisaient et qui savaient de quelle manière je vivais avec lui n'avaient garde de me tout dire. Mais si le dieu Brahma n'a que ce présent à me faire, je renonce à cette béatitude. Monsieur le gouverneur, je me fais mahométane. Et pour vous, dit-elle en regardant le bonze. « Vous pouvez, si vous voulez, aller dire à mon mari que je me porte fort bien. » De Paris, le 2 de la lune de Chalval, 1718. Lettre 127. Rika à Usbek à « Je t'attends ici demain. Cependant, je t'envoie tes lettres d'Ispahan. Les miennes portent que l'ambassadeur du grand Mogol a reçu ordre de sortir du royaume. On ajoute qu'on a fait arrêter le prince, oncle du roi, qui est chargé de son éducation, qu'on l'a fait conduire dans un château où il est très étroitement gardé et qu'on l'a privé de tous ses honneurs. Je suis touché du sort de ce prince et je le plains. Je te l'avoue, Usbek, je n'ai jamais vu couler les larmes de personne sans en être attendri. Je sens de l'humanité pour les malheureux, comme s'il n'y avait qu'eux qui fussent hommes. Et les grands, même, pour lesquels je trouve dans mon cœur de la dureté quand ils sont élevés, je les aime sitôt qu'ils tombent. En effet, qu'ont-ils à faire dans la prospérité d'une inutile tendresse? Elle approche trop de l'égalité. Ils aiment bien mieux du respect qu'ils ne demandent point de retour. Mais sitôt qu'ils sont déchus de leur grandeur, il n'y a que nos plaintes qui puissent leur en rappeler l'idée. Je trouve quelque chose de bien naïf et même de bien grand dans les paroles d'un prince qui, près de tomber entre les mains de ses ennemis, voyant ses courtisans autour de lui qui pleuraient, « Je sens, leur dit-il, à vos larmes que je suis encore votre roi. » De Paris, le 3 de la lune de Chalval, 1718. Lettre 128. Rika à Ibn, à Smyrne. Tu as, oui, parlé mille fois du fameux roi de Suède. Il a siégé une place dans un royaume qu'on nomme la Norvège. Comme il visitait la tranchée, seul avec un ingénieur, il a reçu un coup dans la tête, dont il est mort. On a fait sur le champ arrêter son premier ministre. Les États se sont assemblés et l'ont condamné à perdre la tête. Il était accusé d'un grand crime, celui d'avoir calomnié la nation et de lui avoir fait perdre la confiance de son roi. Forfait qui, selon moi, mérite mille morts. Car enfin, si c'est une mauvaise action de noircir dans l'esprit du prince le dernier de ses sujets, qu'est-ce lorsque l'on noircit la nation entière et qu'on lui ôte la bienveillance de celui que la Providence a établi pour faire son bonheur? Je voudrais que les hommes parlassent au roi comme les anges parlent à notre saint prophète. Tu sais que, dans les banquets sacrés où le Seigneur des Seigneurs descend du plus sublime trône du monde pour se communiquer à ses esclaves, je me suis fait une loi sévère de captiver une langue indocile. On ne m'a jamais vu abandonner une seule parole qui pût être amère au dernier de ses sujets. Quand il m'a fallu cesser d'être sobre, je n'ai point cessé d'être honnête homme. Et dans cette épreuve de notre fidélité, j'ai risqué ma vie et jamais ma vertu. Je ne sais comment il arrive qu'il n'y a presque jamais de prince si méchant que son ministre ne le soit encore davantage. S'il fait quelque action mauvaise, elle a presque toujours été suggérée. De manière que l'ambition des princes n'est jamais si dangereuse que la bassesse d'âme de ses conseillers. Mais comprends-tu qu'un homme qui n'est que d'hier dans le ministère, qui peut-être n'y sera pas demain, puisse devenir dans un moment l'ennemi de lui-même, de sa famille, de sa patrie et du peuple qui naîtra à jamais de celui qu'il va faire opprimer? Un prince a des passions. Le ministre les remue. C'est de ce côté-là qu'il dirige son ministère. Il n'a point d'autre but, ni n'en veut connaître. Les courtisans le séduisent par leurs louanges, et lui le flatte plus dangereusement par ses conseils, par les desseins qu'il lui inspire et par les maximes qu'il lui propose. De Paris, le 25 de la lune de Safar, 1719. Lettre 129. Rika à Usbek, à Je passais l'autre jour sur le Pont Neuf avec un de mes amis. Il rencontra un homme de sa connaissance qu'il me dit être un géomètre. Et il n'y avait rien qui n'y parût, car il était dans une rêverie profonde. Il fallut que mon ami le tirât longtemps par la manche et le secouât pour le faire descendre jusque à lui, tant il était occupé d'une courbe qui le tourmentait peut-être depuis plus de 8 jours. Ils se firent tous deux beaucoup d'honnêteté et s'apprirent réciproquement quelques nouvelles littéraires. Ces discours les menèrent jusque sur la porte d'un café où j'entrai avec eux. Je remarquai que notre géomètre y fut reçu de tout le monde avec empressement et que les garçons du café en faisaient beaucoup plus de cas que de 2 mousquetaires qui étaient dans un coin. Pour lui, il parut qu'il se trouvait dans un lieu agréable, car il dérida un peu son visage, et il se mit à rire, comme s'il n'avait pas eu la moindre teinture de géométrie. Cependant, son esprit régulier toisait tout ce qui se disait dans la conversation. Il ressemblait à celui qui, dans un jardin, coupait avec son épée la tête des fleurs qui s'élevaient au-dessus des autres. Martyr de sa justesse, il était offensé d'une saillie comme une vue délicate est offensée par une lumière trop vive. Rien pour lui n'était indifférent, pourvu qu'il fût vrai. Aussi sa conversation était-elle singulière. Il était arrivé ce jour-là de la campagne avec un homme qui avait vu un château superbe et des jardins magnifiques. Et il n'avait vu, lui, qu'un bâtiment de 60 pieds de long sur 35 de large et un bosquet barlon de 10 arpents. Il aurait fort souhaité que les règles de la perspective eussent été tellement observées que les allées des avenues eussent paru partout de même largeur, et il aurait donné pour cela une méthode infaillible. Il parut fort satisfait d'un cadran qu'il y avait démêlé, d'une structure fort singulière, et il s'échauffa fort contre un savant qui était auprès de moi, qui, malheureusement, lui demanda si ce cadran marquait les heures babyloniennes. Un nouvelliste parla du bombardement du château de Fontarabie, et il nous donna soudain les propriétés de la ligne que les bombes avaient décrites en l'air, et, charmé de savoir cela, il voulut en ignorer entièrement le succès. Un homme se plaignait d'avoir été ruiné l'hiver d'auparavant par une inondation. « Ce que vous me dites là m'est fort agréable, » dit alors le géomètre. Je vois que je ne me suis pas trompé dans l'observation que j'ai faite, et qu'il est au moins tombé sur la terre 2 pouces d'eau plus que l'année passée. » Un moment après, il sortit et nous le suivîmes. Comme il allait assez vite et qu'il négligeait de regarder devant lui, il fut rencontré directement par un autre homme. Ils se choquèrent rudement. Et de ce coup, ils rejaillirent chacun de son côté, en raison réciproque de leur vitesse et de leur masse. Quand ils furent un peu revenus de leur étourdissement, cet homme, portant la main sur le front, dit au géomètre « Je suis bien aise que vous m'ayez heurté, car j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je viens de donner mon Horace au public. »«
Comment ? »
dit le géomètre. « Il y a 2000 ans qu'il y est. »
« Vous ne m'entendez pas ? »
reprit l'autre. « C'est une traduction de cet ancien auteur que je viens de mettre au jour. Il y a 20 ans que je m'occupe à faire des traductions. »«
Quoi, monsieur ? »
dit le géomètre. « Il y a 20 ans que vous ne pensez pas. Vous parlez pour les autres et ils pensent pour vous. »«
Monsieur, » dit le savant, « croyez-vous que je n'ai pas rendu un grand service au public de lui rendre la lecture des bons auteurs familières ?»
« Je ne dis pas tout à fait cela. J'estime autant qu'un autre les sublimes génies que vous travestissez. Mais vous ne leur ressemblerez point, car si vous traduisez toujours, on ne vous traduira jamais. Les traductions sont comme ces monnaies de cuivre qui ont bien la même valeur qu'une pièce d'or et même sont d'un plus grand usage pour le peuple, mais elles sont toujours faibles et d'un mauvais aloi. Vous voulez, dites-vous, faire renaître parmi nous ces illustres morts. Et j'avoue que vous leur donnez bien un corps, mais vous ne leur rendez pas la vie.
Il y manque toujours un esprit pour les animer. Que ne vous appliquez-vous plutôt à la recherche de tant de belles vérités qu'un calcul facile nous fait découvrir tous les jours ?
Après ce petit conseil, ils se séparèrent, je crois, très mécontents l'un de l'autre. De Paris, le dernier de la lune de Rébia II, 1719. Lettre 130. Rika A.
Je te parlerai dans cette lettre d'une certaine nation qu'on appelle les nouvellistes, qui s'assemblent dans un jardin magnifique où leur oisiveté est toujours occupée. Ils sont très inutiles à l'État, et leurs discours de 50 ans n'ont pas un effet différent de celui qu'aurait pu produire un silence aussi long. Cependant, ils se croient considérables, parce qu'ils s'entretiennent de projets magnifiques et traitent de grands intérêts. La base de leur conversation est une curiosité frivole et ridicule. Il n'y a point de cabinet si mystérieux qu'ils ne prétendent pénétrer. Ils ne sauraient consentir à ignorer quelque chose. Ils savent combien notre auguste sultan a de femmes, combien il fait d'enfants toutes les années. Et quoiqu'ils ne fassent aucune dépense en espions, ils sont instruits des mesures qu'il prend pour humilier l'empereur des Turcs et celui des Moghols. À peine ont-ils épuisé le présent qu'ils se précipitent dans l'avenir, et marchant au-devant de la Providence, ils la préviennent sur toutes les démarches des hommes. Ils conduisent un général par la main, et après l'avoir loué de 1000 sottises qu'il n'a pas faites, ils lui en préparent 1000 autres qu'il ne fera pas. Ils font voler les armées comme les grues, et tomber les murailles comme des cartons. Ils ont des ponts sur toutes les rivières, des routes secrètes dans toutes les montagnes, des magasins immenses dans les sables brûlants. Il ne leur manque que le bon sens. Il y a un homme avec qui je loge qui reçut cette lettre d'un nouvelliste. Comme elle m'a paru singulière, je la gardais. La voici. Monsieur, je me trompe rarement dans mes conjectures sur les affaires du temps. Le 1er janvier 1711, je prédis que l'empereur Joseph mourrait dans le cours de l'année. Il est vrai que, comme il se portait fort bien, je crus que je me ferais moquer de moi si je m'expliquais d'une manière bien claire. Ce qui fit que je me servis de termes un peu énigmatiques. Mais les gens qui savent raisonner m'entendirent bien. Le 17 avril de la même année, il mourut de la petite vérole. Dès que la guerre fut déclarée entre l'empereur et les Turcs, j'allai chercher nos messieurs dans tous les coins des Tuileries. Je les assemblai près du bassin et leur prédis qu'on ferait le siège de Belgrade et qu'ils seraient pris. J'ai été assez heureux pour que ma prédiction ait été accomplie. Il est vrai que vers le milieu du siège, je pariais 100 pistoles qu'ils seraient pris le 18 août. Il ne fut pris que le lendemain. Peut-on perdre un si beau jeu? Lorsque je vis que la flotte d'Espagne débarquait en Sardaigne, je jugeai qu'elle en ferait la conquête. Je le dis, et cela se trouva vrai. Enflé de ce succès, j'ajoutai que cette flotte victorieuse irait débarquer à Finale pour faire la conquête du Milanais. Comme je trouvais de la résistance à faire recevoir cette idée, je voulus la soutenir glorieusement. Je pariai 50 pistoles, et je les perdis encore, car ce diable d'Alberoni, malgré la foi des traités, envoya sa flotte en Sicile et trompa tout à la fois deux grands politiques, le duc de Savoie et moi. Tout cela, monsieur, me déroute si fort que j'ai résolu de prédire toujours et de ne parier jamais. Autrefois, nous ne connaissions point aux Tuileries l'usage des paris, et feu, monsieur le comte de L, ne les souffrait guère. Mais depuis qu'une troupe de petits maîtres s'est mêlée parmi nous, nous ne savons plus où nous en sommes. À peine ouvrons-nous la bouche pour dire une nouvelle qu'un de ces jeunes gens propose de parier contre. L'autre jour, comme j'ouvrais mon manuscrit et accommodais mes lunettes sur mon nez, un de ces fanfarons, saisissant justement l'intervalle du premier mot au second, me dit « Je parie 100 pistoles que non ».
Je fis semblant de n'avoir pas fait d'attention à cette extravagance, et, reprenant la parole d'une voix plus forte, je dis « Monsieur le maréchal de... » Ayant appris «
Cela est faux !» me dit-il. « Vous avez toujours des nouvelles extravagantes. Il n'a pas le sens commun à tout cela. »
« Je vous prie, monsieur, de me faire le plaisir de me prêter 30 pistoles, car je vous avoue que ces paris m'ont fort dérangé. Je vous envoie la copie de 2 lettres que j'ai écrites au ministre. Je suis, etc. » Lettre d'un nouvelliste au ministre. « Monseigneur, je suis le sujet le plus zélé que le roi ait jamais eu. C'est moi qui obligeais un de mes amis d'exécuter le projet que j'avais formé d'un livre pour démontrer que Louis le Grand était le plus grand de tous les princes qui ont mérité le nom de grand. Je travaille depuis longtemps à un autre ouvrage qui fera encore plus d'honneur à notre nation, si votre grandeur veut m'accorder un privilège. Mon dessein est de prouver que depuis le commencement de la monarchie, les Français n'ont jamais été battus, et que ce que les historiens ont dit jusqu'ici de nos désavantages sont de véritables impostures. Je suis obligé de les redresser en bien des occasions, et j'ose me flatter que je brille surtout dans la critique. Je suis monseigneur, etc. Monseigneur, depuis la perte que nous avons faite de Monsieur le comte de L, nous vous supplions d'avoir la bonté de nous permettre d'élire un président. Le désordre se met dans nos conférences, et les affaires d'État n'y sont pas traitées avec la même discussion que par le passé. Nos jeunes gens vivent absolument sans égard pour les anciens, et entre eux, sans discipline. C'est le véritable conseil de Roboam, où les jeunes imposent aux vieillards. Nous avons beau leur représenter que nous étions paisibles possesseurs des Tuileries 20 ans avant qu'ils fussent au monde, je crois qu'ils nous en chasseront à la fin, et qu'obligés de quitter ces lieux où nous avons tant de fois évoqué les ombres de nos héros français, il faudra que nous allions tenir nos conférences au jardin du roi ou dans quelque lieu plus écarté. Je suis, etc. De Paris, le 7 de la lune de Gemadi II, 1719. Lettre 131. Reddy Arica, à Paris. Une des choses qui a le plus exercé ma curiosité en arrivant en Europe, c'est l'histoire et l'origine des républiques. Tu sais que la plupart des Asiatiques n'ont pas seulement l'idée de cette sorte de gouvernement, et que l'imagination ne les a pas servis jusqu'à leur faire comprendre qu'il puisse y en avoir sur la terre d'autres que le despotique. Les premiers gouvernements que nous connaissons étant monarchiques, ce ne fut que par hasard et par la succession des siècles que les républiques se formèrent. La Grèce ayant été abîmée par un déluge, de nouveaux habitants vinrent la peupler. Elle tira presque toutes ses colonies d'Égypte et des contrées de l'Asie les plus voisines. Et comme ces pays étaient gouvernés par des rois, les peuples qui en sortirent furent gouvernés d'eux-mêmes. Mais la tyrannie de ces princes devenant trop pesante, on secoua le joug. Et du débris de tant de royaumes s'élevèrent ces républiques, qui firent si fort fleurir la Grèce, seule polie au milieu des barbares. L'amour de la liberté, la haine des rois, conserva longtemps la Grèce dans l'indépendance, et étendit au loin le gouvernement républicain. Les villes grecques trouvèrent des alliés dans l'Asie mineure, elles y envoyèrent des colonies aussi libres qu'elles, qui leur servirent de rempart contre les entreprises des rois de Perse. Ce n'est pas tout. La Grèce peupla l'Italie. L'Italie, l'Espagne et peut-être les Gaules. On sait que cette grande Hespérie, si fameuse chez les anciens, était au commencement la Grèce, que ses voisins regardaient comme un séjour de félicité. Les Grecs, qui ne trouvaient point chez eux ce pays heureux, l'allèrent chercher en Italie. Ceux de l'Italie, en Espagne. Ceux d'Espagne, dans la Bétique ou le Portugal. de manière que toutes ces régions portèrent ce nom chez les anciens. Ces colonies grecques apportèrent avec elles un esprit de liberté qu'elles avaient pris dans ce doux pays. Ainsi, on ne voit guère, dans ces temps reculés, de monarchie dans l'Italie, l'Espagne, les Gaules. Tu verras bientôt que les peuples du Nord et d'Allemagne n'étaient pas moins libres, et si l'on trouve des vestiges de quelques royautés parmi eux, c'est qu'on a pris pour des rois les chefs des armées ou des républiques. Tout ceci se passait en Europe, car pour l'Asie et l'Afrique, elles ont toujours été accablées sous le despotisme. Si vous en exceptez quelques villes de l'Asie mineure dont nous avons parlé, et la République de Carthage en Afrique. Le monde fut partagé entre deux puissantes républiques, celle de Rome et celle de Carthage. Il n'y a rien de si connu que les commencements de la République romaine, et rien qui le soit si peu que l'origine de celle de Carthage. On ignore absolument la suite des princes africains depuis Didon et comment ils perdirent leur puissance. C'eût été un grand bonheur pour le monde que l'agrandissement prodigieux de la République romaine, s'il n'y avait pas eu cette différence injuste entre les citoyens romains et les peuples vaincus. Si l'on avait donné aux gouverneurs des provinces une autorité moins grande, si les lois si saintes pour empêcher leur tyrannie avaient été observées, et s'ils ne s'étaient pas servis pour les faire taire des mêmes trésors que leur injustice avait amassés. César opprima la République romaine et la soumit à un pouvoir arbitraire. L'Europe gémit longtemps sous un gouvernement militaire et violent, et la douceur romaine fut changée en une cruelle oppression. Cependant, une infinité de nations inconnues sortirent du nord, se répandirent comme des torrents dans les provinces romaines, et, trouvant autant de facilité à faire des conquêtes qu'à exercer leur piraterie, elles démembrèrent l'empire et fondèrent des royaumes. Ces peuples étaient libres, et ils bornaient si fort l'autorité de leurs rois qu'ils n'étaient proprement que des chefs ou des généraux. Ainsi, ces royaumes, quoique fondés par la force, ne sentirent point le joug du vainqueur. Lorsque les peuples d'Asie, comme les Turcs et les Tartares, firent des conquêtes, soumises à la volonté d'un seul, ils ne songèrent qu'à lui donner de nouveaux sujets et à établir par les armes son autorité violente. Mais les peuples du Nord, libres dans leur pays, s'emparant des provinces romaines, ne donnèrent point à leur chef une grande autorité. Quelques-uns même de ces peuples, comme les Vandales en Afrique, les Goths en Espagne, déposaient leur roi dès qu'ils n'en étaient pas satisfaits. Et chez les autres, l'autorité du prince était bornée de mille manières différentes. Un grand nombre de seigneurs la partageaient avec lui. Les guerres n'étaient entreprises que de leur consentement. Les dépouilles étaient partagées entre le chef et les soldats. Aucun impôt en faveur du prince. Les lois étaient faites dans les assemblées de la nation. Voilà le principe fondamental de tous ces États qui se formèrent des débris de l'Empire romain. De Venise, le vin de la lune de Régeb, 1719. Lettre 132. Rica à... Je fus, il y a 5 ou 6 mois, dans un café. J'y remarquai un gentilhomme assez bien mis qui se faisait écouter. Il parlait du plaisir qu'il y avait de vivre à Paris. Il déplorait sa situation d'être obligé d'aller languir dans la province. « J'ai, dit-il, 15 000 livres de rente en fonds de terre, et je me croirais plus heureux si j'avais le quart de ce bien-là en argent et en effet portable partout. » J'ai beau presser mes fermiers et les accabler de frais de justice, je ne fais que les rendre plus insolvables. Je n'ai jamais pu voir 100 pistoles à la fois. Si je devais 10 000 francs, on me ferait saisir toutes mes terres et je serais à l'hôpital. Je sortis sans avoir fait grande attention à tout ce discours. Mais, me trouvant hier dans ce quartier, J'entrai dans la même maison et j'y vis un homme grave, d'un visage pâle et allongé, qui, au milieu de 5 ou 6 discoureurs, paraissait morne et pensif, jusqu'à ce que, prenant brusquement la parole, « Oui, messieurs, » dit-il en haussant la voix, « je suis ruiné, je n'ai plus de quoi vivre, car j'ai actuellement chez moi 200 000 livres en billets de banque et 100 000 écus d'argent. Je me trouve dans une situation affreuse. Je me suis cru riche et me voilà à l'hôpital. Au moins, si j'avais seulement une petite terre où je pusse me retirer, je serais sûr d'avoir de quoi vivre. Mais je n'ai pas grand comme ce chapeau de fond de terre. » Je tournai par hasard la tête d'un autre côté et je vis un autre homme qui faisait des grimaces de possédé. « À qui se fier désormais ? » s'écriait-il. « Il y a un traître que je croyais si fort de mes amis que je lui avais prêté mon argent, et il me l'a rendu. Quelle perfidie horrible ! Il a beau faire, dans mon esprit il sera toujours déshonoré. » Tout près de là était un homme très mal vêtu qui, élevant les yeux au ciel, disait « Dieu bénisse les projets de nos ministres. Puissais-je voir les actions à 2 000 et tous les laquais de Paris plus riches que leurs maîtres ?» J'eus la curiosité de demander son nom. « C'est un homme extrêmement pauvre, me dit-on. Aussi a-t-il un pauvre métier, il est généalogiste, et il espère que son art rendra, si les fortunes continuent, et que tous ces nouveaux riches auront besoin de lui pour réformer leur nom, décrasser leurs ancêtres et orner leurs carrosses. Il s'imagine qu'il va faire autant de gens de qualité qu'il voudra, et il tressaillit de joie de voir multiplier ses pratiques. » Enfin, je vis entrer un vieillard, pâle et sec, que je reconnus pour nouvelliste avant qu'il se fût assis. Il n'était pas du nombre de ceux qui ont une assurance victorieuse contre tous les revers et présagent toujours les victoires et les trophées. C'était, au contraire, un de ces trembleurs qui n'ont que des nouvelles tristes. « Les affaires vont bien mal du côté d'Espagne, » dit-il. « Nous n'avons point de cavalerie sur la frontière, et il est à craindre que le prince Pio, qui en a un gros corps, ne fasse contribuer tout le Languedoc. » Il y avait vis-à-vis de moi un philosophe assez mal en ordre qui prenait le nouvelliste en pitié et haussait les épaules à mesure que l'autre haussait la voix. Je m'approchai de lui et il me dit à l'oreille « Vous voyez que ce fat nous entretient. Il y a 1 heure de sa frayeur pour le Languedoc. Et moi, j'aperçus hier au soir une tache dans le soleil qui, si elle augmentait, pourrait faire tomber toute la nature en engourdissement. Et je n'ai pas dit un seul mot. » De Paris, le 17 de la lune de Ramazan, 1719. Lettre 133. Rica à... J'allais l'autre jour voir une grande bibliothèque dans un couvent de dervis, qui en sont comme les dépositaires, mais qui sont obligés d'y laisser entrer tout le monde à certaines heures. En entrant, je vis un homme grave qui se promenait au milieu d'un nombre innombrable de volumes qui l'entouraient. J'allai à lui et le priai de me dire quels étaient quelques-uns de ces livres que je voyais mieux reliés que les autres. « Monsieur, me dit-il, j'habite ici une terre étrangère, je n'y connais personne. Bien des gens font de pareilles questions, mais vous voyez bien que je n'irai pas lire tous ces livres pour les satisfaire. J'ai mon bibliothécaire qui vous donnera satisfaction, car il s'occupe nuit et jour à déchiffrer tout ce que vous voyez là. C'est un homme qui n'est bon à rien et qui nous est très à charge, parce qu'il ne travaille point pour le couvent. Mais j'entends l'heure du réfectoire qui sonne. Ceux qui, comme moi, sont à la tête d'une communauté doivent être les premiers à tous les exercices. » En disant cela, le moine me poussa dehors, ferma la porte et, comme s'il eût volé, disparut à mes yeux. De Paris, le 21 de la lune de Ramazan, 1719. Lettre 134. Rica au même.
Je retournai le lendemain à cette bibliothèque, où je trouvai tout un autre homme que celui que j'avais vu la première fois. Son air était simple, sa physionomie spirituelle et son abord très affable. Dès que je lui eus fait connaître ma curiosité, il se mit en devoir de la satisfaire, et même, en qualité d'étranger, de m'instruire. « Mon père, lui dis-je, quels sont ces gros volumes qui tiennent tout ce côté de la bibliothèque ?»«
Ce sont, me dit-il, les interprètes de l'écriture. »
« Il y en a un grand nombre, lui répartis-je. Il faut que l'écriture fût bien obscure autrefois et bien claire à présent. Reste-t-il encore quelques doutes? Peut-il y avoir des points contestés ?»«
S'il y en a, bon Dieu, s'il y en a, me répondit-il,
il y en a presque autant que de lignes. »
« Oui, lui dis-je, et qu'ont donc fait tous ces auteurs ?»«
Ces auteurs, me répartit-il, n'ont point cherché dans l'écriture ce qu'il faut croire, mais ce qu'ils croient eux-mêmes. Ils ne l'ont point regardé comme un livre où étaient contenus les dogmes qu'ils devaient recevoir, mais comme un ouvrage qui pourrait donner de l'autorité à leurs propres idées. C'est pour cela qu'ils en ont corrompu tous les sens et ont donné la torture à tous les passages. C'est un pays où les hommes de toutes les sectes font des descentes et vont comme au pillage. C'est un champ de bataille où les nations ennemies qui se rencontrent livrent bien des combats, où l'on s'attaque, où l'on s'escarmouche de bien des manières. Tout près de là, voyez les livres ascétiques ou de dévotion. Ensuite, les livres de morale, bien plus utiles. Ceux de théologie, doublement inintelligibles, et par la matière qui y est traitée, et par la manière de la traiter. Les ouvrages des mystiques, c'est-à-dire des dévots qui ont le cœur tendre. « Ah, mon père, lui dis-je, un moment, n'allez pas si vite, parlez-moi de ces mystiques. »
« Monsieur, me dit-il, la dévotion échauffe un cœur disposé à la tendresse et lui fait envoyer des esprits au cerveau qui les chauffent d'eux-mêmes, d'où naissent les extases et les ravissements. Cet état est le délire de la dévotion. Souvent il se perfectionne ou plutôt dégénère en quiétisme. Vous savez qu'un quiétiste n'est autre chose qu'un homme fou, dévot et libertin. Voyez les casuistes, qui mettent au jour les secrets de la nuit, qui forment dans leur imagination tous les monstres que le démon d'amour peut produire, les rassemblent, les comparent, et en font l'objet éternel de leurs pensées. Heureux si le cœur ne se met pas de la partie et ne devient pas lui-même complice de tant d'égarements si naïvement décrits et si nûment peints. Vous voyez, monsieur, que je pense librement et que je vous dis tout ce que je pense. Je suis naturellement naïf, et plus encore avec vous qui êtes un étranger, qui voulez savoir des choses et les savoir telles qu'elles sont. Si je voulais, je ne vous parlerais de tout ceci qu'avec admiration, je vous dirais sans cesse « Cela est divin, cela est respectable, il y a du merveilleux !» Et il en arriverait de deux choses l'une, ou que je vous tromperais, ou que je me déshonorerais dans votre esprit. Nous en restâmes là. Une affaire qui survint au dervis rompit notre conversation jusque au lendemain. De Paris, le 23 de la lune de Ramazan, 1719. Lettre 135. Rika au même. Je revins à l'heure marquée, et mon homme me mena précisément à l'endroit où nous nous étions quittés. « Voici, me dit-il, les grammairiens, les glossateurs et les commentateurs. » « Mon père, lui dis-je, « tous ces gens-là ne peuvent-ils pas se dispenser d'avoir du bon sens ?»«
Oui, dit-il, ils le peuvent, et même ils n'y paraissent pas. Leurs ouvrages n'en sont pas plus mauvais, ce qui est très commode pour eux. »«
Cela est vrai, lui dis-je, et je connais bien des philosophes qui feraient bien de s'appliquer à ces sortes de sciences. »«
Voilà, poursuivit-il, les orateurs, qui ont le talent de persuader, indépendamment des raisons,
et les géomètres, qui obligent un homme, malgré lui, d'être persuadé et le convainquent avec tyrannie. Voici les livres de métaphysique, qui traitent de si grands intérêts, et dans lesquels l'infini se rencontre partout. Les livres de physique, qui ne trouvent pas plus de merveilleux dans l'économie du vaste univers que dans la machine la plus simple de nos artisans. Les livres de médecine, ces monuments de la fragilité de la nature et de la puissance de l'art, qui font trembler quand ils traitent des maladies même les plus légères, tant ils nous rendent la mort présente, mais qui nous mettent dans une sécurité entière quand ils parlent de la vertu des remèdes, comme si nous étions devenus immortels. Tout près de là sont les livres d'anatomie, qui contiennent bien moins la description des parties du corps humain que les noms barbares qu'on leur a donnés. Chose qui ne guérit ni le malade de son mal, ni le médecin de son ignorance. Voici la chimie, qui habite tantôt l'hôpital et tantôt les petites maisons, comme des demeures qui lui sont également propres. Voici les livres de science, ou plutôt d'ignorance occulte. Tels sont ceux qui contiennent quelque espèce de diablerie. Exécrable, selon la plupart des gens, pitoyable, selon moi. Tels sont encore les livres d'astrologie judiciaire. Que dites-vous, mon père ? Les livres d'astrologie judiciaire ? Repartis-je avec feu. Et ce sont ceux dont nous faisons le plus de cas en Perse. Ils règlent toutes les actions de notre vie et nous déterminent dans toutes nos entreprises. Les astrologues sont proprement nos directeurs. Ils font plus, ils entrent dans le gouvernement de l'État. « Si cela est, me dit-il, vous vivez sous un joug bien plus dur que celui de la raison. Voilà le plus étrange de tous les empires. » Je plains bien une famille et encore plus une nation qui se laisse si fort dominer par les planètes. Nous nous servons, lui répartis-je, de l'astrologie comme vous vous servez de l'algèbre. Chaque nation a sa science, selon laquelle elle règle sa politique. Tous les astrologues ensemble n'ont jamais fait tant de sottises en notre Perse qu'un seul de vos algébristes en a fait ici. Croyez-vous que le concours fortuit des astres ne soit pas une règle aussi sûre que les beaux raisonnements de votre faiseur de système? Si l'on comptait les voix là-dessus, en France et en Perse, ce serait un beau sujet de triomphe pour l'astrologie. Vous verriez les calculateurs bien humiliés. Quel accablant corollaire n'en pourrait-on pas tirer contre eux? Notre dispute fut interrompue et il fallut nous quitter. De Paris, le 26 de la lune de Ramazan, 1719.